السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
Au cours de mon précédent sermon, j'ai évoqué l'attribut Al-Wali de Dieu et dans ce contexte, j'ai cité plusieurs versets du Saint-Coran et les explications de ces versets présentées par les lexiques arabes. Et j'ai aussi mentionné le sujet de certains de ces versets. Il y avait d'autres versets que j'ai quittés et que je vais reprendre aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres versets que je n'ai pas cités la dernière fois où Allah a mentionné son attribut Al-Wali. Dans nombre d'endroits, Dieu mentionne qu'il est le Wali. Je ne pourrai pas mentionner tous ces versets aujourd'hui. Je vais expliquer quelques-uns de ces versets à la lumière des commentaires du Messie promis alayhi salam. Allah a attiré l'attention des croyants et des non-croyants à propos de cet attribut. Il a averti les kuffars, les incroyants, à ce propos. Dans la sourate Ra'd, Allah déclare « Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayru ma biqawmin hatta yughayru ma bi anfusihim wa idha arada allahu biqawmin su'an فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. La traduction de ce verset est comme suit. Pour chacun, il y a des sentinelles qui se meuvent sans répit devant lui et derrière lui pour le protéger par l'ordre d'Allah. Assurément, Allah ne change pas la condition d'un peuple avant qu'il n'ait changé ce qui est dans leur cœur. Et lorsqu'Allah décide d'un mauvais résultat pour un peuple, nul ne peut le repousser et ils ne peuvent avoir de protecteur en dehors de lui.
«
Dans ce verset, Allah a évoqué quatre points. Tout d'abord, il y a le fait qu'Allah a pris la responsabilité de la protection de tout un chacun. Ensuite, Allah décide de l'état d'un peuple selon les actions mêmes de ce peuple. Troisièmement, lorsqu'Allah décrète qu'un peuple mérite châtiment, personne ne pourra l'en détourner. Ensuite, il est dit que c'est Allah qui est le vrai gardien, le vrai soutien et le vrai aide. Le Messie promis alayhi salam a commenté sur la partie du verset où il est dit « Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ». Il déclare qu'Allah a assigné des sentinelles qui protègent ses serviteurs de toutes parts. Il les protège ouvertement et en secret. À qui est accordée cette protection? Ce sont en fait en premier lieu les prophètes de Dieu qui jouissent le plus de cette protection. Et après la naissance du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le plus aimé par Dieu fut le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Depuis sa naissance et jusqu'à sa mort, Dieu a accompli en sa faveur cette parole. Et il n'y a pas d'exemple similaire à ce propos. Le deuxième calife de la communauté a commenté sur cette partie du verset « Lahu muaqibatun », c'est-à-dire qu'il y a des sentinelles pour lui. Il a déclaré que « Lahu » s'applique au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il était de tout temps sous la protection de Dieu. Il a vécu à la Mecque et l'histoire de l'islam est évidente et nous voyons comment il a joui de la protection de Dieu à chaque instant. La sourate Ra'd, dont j'ai cité le verset, fut révélée à la Mecque. Cette sourate fut révélée alors que l'animosité contre le saint prophète Mohammed lui avait atteint son comble. Mais suite aux promesses divines, Dieu lui a accordé sa protection, de sorte que même dans ces situations périlleuses, l'ennemi n'a pas pu atteindre son objectif. Et ensuite, au cours de la bataille de Badr, nous voyons des signes évidents de la protection ouverte et secrète accordée par Dieu. Dans un hadith, il est dit qu'Amir bin Tufail, un chef arabe, s'est adressé au saint prophète et lui a dit que si je deviens musulman, est-ce que vous allez m'accorder le califat après votre décès? Le saint prophète Mohammed lui a répondu et a déclaré que la personne qui place cette condition et son peuple ne jouiront jamais du califat. Sur ce, Amir bin Tufail fut courroucé et il a déclaré que je vais vous donner une leçon dont vous allez vous en rappeler pour toujours. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui a répondu en disant que jamais Dieu ne t'en donnera l'occasion. En tout cas, Amir bin Tufail et son compagnon sont partis tout en colère. En cours de route, son compagnon lui a dit que J'ai un plan. Nous allons retourner et je vais parler avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu vas prendre ton épée et tu vas le tuer. Amir bin Tufail était plus prudent parmi les deux. Il était plus intelligent. Il a dit que c'est très dangereux. Si nous l'assassinons, ses compagnons vont nous tuer. Ce compagnon qui avait des pensées plus sataniques a déclaré que nous allons payer le prix du sang. Donc, il a accepté cela, ils sont retournés tous deux. Le compagnon d'Amir bin Tufail a commencé à parler au saint prophète Mohammed bin Sassalui, et Amir a pris son épée et était prêt à abattre le saint prophète Mohammed bin Sassalui. Mais il n'a pu le faire car Dieu lui a inspiré une telle crainte du saint prophète Mohammed bin Sassalui que sa main était figée et qu'il n'a pas pu lancer son attaque. Le saint prophète bin Sassalui s'est retourné vers lui et a vu son épée dans sa main et il s'est écarté de lui. Et le saint prophète Mohammed bin Sassalui les a laissés partir. Ils étaient libres de partir, mais Allah a accordé sa protection au saint prophète Mohammed bin Sassalui. Et voyez aussi comment il a vengé le saint prophète Mohammed bin Sassalui. Le compagnon d'Amir fut frappé par la foudre et mourut sur le coup. Et il est dit à propos d'Amir qu'il a eu des pustules et qu'il en est mort. À différents moments, donc, Dieu a montré comment il a protégé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas eu que quelques incidents de ce genre au cours de sa vie, mais sa vie était remplie de tels incidents. Des incidents au cours desquels nous voyons la protection que Dieu lui a accordée par l'entremise de ses anges. Allah a répété de nouveau sa promesse faite à la Mecque au saint prophète Mohammed bin Sassalui à Médine afin de le rassurer. Allah a déclaré Wallahu yasimuka minan nas, c'est-à-dire Allah va te protéger des attaques des hommes. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare que le fait que le saint prophète, paix soit sur lui, ne soit pas assassiné par quiconque est un très grand miracle. C'est là une preuve de la véracité du saint Coran. Car le saint Coran prophétise Wallahu yasimuka minan nas. Et dans les premiers livres, on trouve mention de cette prophétie que le prophète des derniers temps ne sera pas assassiné. Hadrat Muslim Maud a commenté sur ce verset et déclare que selon moi, à part les anges, ses compagnons sincères font partie de ces sentinelles qui ont fait la promesse de se battre devant et derrière le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une promesse qu'ils ont respectée par la grâce d'Allah. Ils ont fait cette promesse suite au commandement de Dieu. Allah a déclaré min amrillah, c'est-à-dire ils accordent cette protection par le commandement de Dieu. Allah le fait par l'entremise des anges. Ensuite, il a assujetti les cœurs des croyants afin qu'ils soient prêts à faire tout sacrifice pour la cause du saint prophète Mohammed bin Sassalui et afin qu'ils soient prêts tout le temps à protéger le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont fait en raison de la foi que Dieu a établie dans leur cœur par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas soutenu le saint prophète, paix soit sur lui, en raison de leurs liens tribaux, ou en raison de leur amitié à son égard, ou en raison d'une inimitié commune. Dans certains cas, il y a des associations en raison d'une inimitié commune. Ces gens n'étaient pas prêts à se battre en raison de cette inimitié commune ou en raison de la crainte qu'inspirait un État quelconque. Ils l'ont fait uniquement en raison de cette foi que Dieu leur a inspirée. Ils l'ont fait afin d'avoir le plaisir de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils se sont battus à ses côtés. Donc Dieu s'est pris la responsabilité de protéger le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais il y a un autre sens qui s'applique à toute personne. Car c'est Dieu lui-même qui s'occupe de la protection de tout le monde. Même s'il n'y a pas de maladie contagieuse, il y a d'innombrables agents pathogènes de l'atmosphère qui peuvent causer des maladies et qui peuvent pénétrer dans les corps par la respiration. Allah a placé le système immunitaire à l'homme afin de le défendre contre l'effet de ces agents pathogènes. Et des fois, il montre comment il accorde la protection à ses serviteurs par l'entremise de ses sentinelles, et il montre des signes à ce propos. Ces sentinelles ne protègent pas uniquement les envoyés de Dieu, mais ils sont là pour accorder leur protection à leurs suivants. À notre époque, nous voyons que lorsque Dieu a montré le signe de la peste en faveur du Messie premier al-Islam, eh bien, il a promis sa protection au Messie premier al-Islam et à ses vrais suivants. Dans son ouvrage, l'Arche de Noé, le Messie premier al-Islam déclare que je m'adresse très respectueusement au gouvernement qui a mis en place un programme d'inoculation. Il déclare donc que j'ai l'honneur d'informer très respectueusement le gouvernement que j'aurais été le premier à profiter de sa bienveillante assistance si un décret du ciel ne m'eût retenu. Le Tout-Puissant veut gratifier cette génération d'un signe de miséricorde venant du ciel. S'adressant à moi, le Tout-Puissant Dieu a dit que ceux et moi-même qui habitons entre les quatre murs de ma maison, ainsi que ceux qui s'annihilent en moi par esprit d'obéissance et de subordination parfaite et de piété sincère, seront sauvés de la peste, et qu'afin d'aider les gens à discerner la vérité d'avec l'erreur, et cela constituera le signe divin dans ces derniers jours. Et nous voyons que ce signe s'est accompli en dépit du fait que cette épidémie de peste a perduré plusieurs années. Cette épidémie a perduré pendant 5 ou 6 ans, mais les Ahmadis étaient protégés de cette épidémie. Et à part les maladies, il y a d'autres malheurs qui frappent les gens. Il y a des pertes d'argent, de biens, il y a des pertes d'honneur ou d'enfants. C'est Allah qui, de par sa grâce, accorde la force aux hommes afin qu'ils puissent supporter ces malheurs. Sinon, ces malheurs peuvent facilement briser les hommes. C'est là donc un autre moyen par lequel Dieu accorde sa protection. Dans certains cas, l'on voit sur les visages de certains l'effet de ces malheurs et ces personnes passent par des états seconds. Dans d'autres cas, lorsque d'autres sont frappés par ces malheurs, ils n'ont plus de certitude en Dieu et commencent à parler contre Dieu. Allah nous montre ces exemples et l'on doit comprendre à la lumière de ces exemples que sans la grâce de Dieu et sans sa protection, la vie de l'homme ne pourra perdurer. L'homme respire chaque instant en raison de la protection de Dieu. Allah accorde ainsi sa protection à ses choisis. Et à chaque instant, ils ont en tête le plaisir de Dieu. Et lorsqu'ils sont frappés de malheur, ils disent « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et en conséquence, ils continuent à profiter de la grâce de Dieu et ils sont protégés de chaque malheur et de chaque difficulté. Suite à la loi naturelle de Dieu, tout le monde profite de cette protection divine. Et les croyants et les incroyants profitent de cette protection. À ce sujet, il y a des leçons pour ceux qui rejettent l'existence de Dieu et pour les incroyants, il leur est dit que s'ils commettent davantage de méfaits, alors qu'ils sachent que Dieu, qui leur a accordé sa protection et ce confort, eh bien Dieu pourra enlever sa protection et ce confort, et dans de tels cas, ils seront complètement anéantis. Allah déclare dans ce verset « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne change pas la condition d'un peuple avant qu'il n'ait changé ce qui est dans leur cœur. Le sens est qu'Allah ne change pas son traitement en faveur des vertueux. Ceux qui sont vertueux continueront à profiter des faveurs divines. Tant que la vertu perdure en eux, tant qu'ils vont suivre les commandements de Dieu, tant qu'ils vont s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu, et tant qu'ils vont s'acquitter de leurs devoirs envers les créatures de Dieu, et tant qu'ils vont suivre les voies de la vertu en tant que jamaat, cette jamaat sera tout le temps récipiendaire de ses faveurs divines. Ces grâces divines et ces faveurs sont enlevées lorsque les gens deviennent les amis de Satan au lieu d'être des amis de Dieu. Dans de tels cas, les actes de vertu disparaissent complètement. Cela donne naissance à la cruauté. Cela donne naissance à la barbarie. On commence à usurper les droits des autres. La corruption des fonctionnaires de l'État dépasse tous les seuils imaginables. Et leur injustice aussi dépasse tous les seuils imaginables. Et tout un chacun convoite les biens des autres. On commence à tuer au nom de la religion. C'est en raison de ces actes que Dieu enlève sa protection. Cette partie du verset ne signifie pas uniquement que Dieu traite ou traitera avec aminité les méchants. Mais le sens est que Dieu ne change pas son traitement de grâce et d'aminité à l'égard des vertus tant qu'ils ne se privent pas de ses faveurs eux-mêmes en s'empêtrant dans les vices et les péchés. Telle est la sunna de Dieu. L'histoire du monde qui nous est présentée ici-bas n'indique pas ses conséquences en référence de Dieu, mais l'histoire de la religion en est témoin. Dieu a évoqué cela clairement dans le Saint-Coran. Il déclare que quand le vice prend naissance dans les peuples, quand la vertu disparaît, Dieu enlève sa protection. Dieu n'a jamais déclaré qu'il suffit de réciter la kalima afin de jouir de sa protection pour tout le temps. Il y a un principe fondamental qu'on déduit ici de ce verset. Amanu wa amilu salihat. Voilà la condition requise. Cela n'a pas été mentionné dans ce verset-ci, mais dans d'autres versets du Saint-Coran. Il est dit donc qu'après avoir cru, vous devez accomplir de bonnes œuvres. Voilà la condition requise. Toute la Oumma doit méditer à ce propos, surtout dans ces pays musulmans où les méfaits sont en train de grandir, où la barbarie est en train de monter en flèche. On est en train de faire des complots pour assassiner les gens de bonne nature. Les gens doivent méditer sur cette partie du verset. Les Pakistanais doivent méditer à ce propos et doivent certainement s'en repentir. Allah déclare donc « Wa idha arada Allahu bi qawmin suran fala marad lahu » Et lorsqu'Allah décide d'un mauvais résultat pour un peuple, nul ne peut le repousser. Avant le décret final, on doit se réformer. Si seulement ces gens peuvent comprendre cela. Si seulement nos compatriotes pouvaient comprendre cela. Le Messie premier salam déclare que l'homme est châtié en raison de ses péchés. Allah déclare Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Assurément, Allah ne change pas la condition d'un peuple avant qu'il n'ait changé ce qui est dans leur cœur. Il déclare ensuite que lorsqu'on attise la colère de Dieu en raison de ses méfaits, lorsque les gens ont commis autant de méfaits qu'ils ont abandonné la voie de la vertu et de la pureté de la crainte de Dieu, et lorsqu'ils ont commencé à commettre des vices et des iniquités, et que la foi en Dieu a disparu complètement, et que l'athéisme a recouvert le monde telle l'obscurité de la nuit, et que le visage éclairé de Dieu a été enfoui sous les décombres du mal, Dieu a fait descendre ce châtiment afin que les gens voient le visage de Dieu et afin que les gens retournent vers Dieu. Le châtiment de Dieu descend lorsqu'on passe par la situation décrite par le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare ensuite que celui qui veut voir des changements en sa faveur, c'est-à-dire celui qui veut être libéré de ses châtiments, de ses souffrances, préparé en résultat de ses mauvaises actions, doit en premier lieu apporter en soi des changements purs. Lorsqu'il va se réformer, Allah va enlever son châtiment et ses souffrances. En raison de ses bonnes œuvres, cette personne pourra profiter des faveurs de Dieu. Et il va recevoir ses grâces. Les signes de la colère de Dieu qui allait le frapper vont s'éloigner de lui. On doit donc réfléchir beaucoup à ce propos et on doit implorer le pardon de Dieu. Qu'Allah fasse que ces gens puissent comprendre cela, et les Ahmadis doivent les faire comprendre ces points. Ensuite, Allah déclare « Wa ma lahum min dunhi min wal » Il n'y a pas de protecteur sauf Allah. Puisqu'il n'y a personne qui puisse les protéger, ils doivent donc chercher la protection de Dieu. Puisqu'il n'y a personne qui pourra leur accorder cette protection, ils doivent chercher à jouir de cette protection. Ils doivent voir ce que Dieu veut et comment atteindre cet objectif. Si, en dépit des prières, ils ne voient pas les résultats escomptés, si en dépit des jeûnes, Le peuple se trouve dans la décadence. C'est en dépit du fait que des milliers de gens ont accompli le pèlerinage et qu'ils ne voient pas de résultats positifs, cela démontre qu'il y a certainement des lacunes dans ces actes accomplis pour Dieu. Qu'Allah fasse que la Oumma puisse comprendre cela et qu'il puisse retourner en toute sincérité vers Dieu. Dieu a évoqué ce sujet dans la sourate Al-Anfal où il est dit « Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun 'alim ». C'est parce qu'Allah ne change jamais une grâce lorsqu'il l'a accordée à un peuple avant que ce peuple n'ait changé l'état de son âme. Et sachez qu'Allah entend tout et qu'Allah sait tout. Ce verset explique davantage ce sujet, à savoir qu'Allah n'enlève pas une grâce qu'il a accordée tant que ce peuple ne se prive pas de cette grâce. Allah n'enlève pas une grâce qu'il a accordée à quelqu'un. C'est l'homme qui, en raison de ses actions, en raison de sa décadence, qui se prive de ses grâces. Sachez aussi que tout ce qui est inscrit dans le Saint-Coran n'est pas que fable ancienne. Tout cela a été mentionné ici afin que les musulmans puissent se réveiller et afin qu'ils puissent comprendre que Dieu leur a accordé une grâce immense et qu'ils doivent apprécier cette grâce. Dieu lui-même en a fait mention dans le Saint-Coran en disant que « Atmamtu alaykum ni'mati », c'est-à-dire « J'ai complété mes faveurs sur vous ». Cette grâce a été accordée par l'entremise du Saint-Coran. Le Saint-Coran qui est le dernier livre de loi, et il y est dit que vous devez suivre le Coran. Lorsque vous allez agir selon les préceptes du Coran, c'est là que vous pourrez accomplir ces actes de vertu, et c'est là ensuite que vous pourrez profiter de la protection de Dieu, et il va prouver qu'il est votre ami. D'aucuns disent que nous avons dilapidé ce que nous avons reçu en héritage de nos aînés. Eh bien, en conséquence, ils se sont privés de la protection de Dieu. Ils ont dilapidé cette grâce et ils ne profitent plus de la protection de Dieu et les non-musulmans les ont assujettis. Les musulmans ne veulent-ils pas comprendre? Ne veulent-ils pas comprendre que Dieu a déclaré à propos de cette umma que kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas? Vous êtes le meilleur peuple créé pour l'avantage de l'humanité. Pourquoi ce peuple qui a été créé pour accorder ses faveurs aux autres s'en trouve privé? Allah vous a créé pour que vous puissiez accorder ses avantages aux autres, mais vous-même, vous en êtes privé. Pourquoi cela? Parce que vous êtes en train de vous entretuer. On est en train de faire exploser des bombes par télécommande. Avant-hier, il y a eu une explosion à Peshawar. Et d'innombrables innocents ont perdu leur vie. Il y a aussi des attaques suicides ici et là. Au nom de la religion, on est en train d'assassiner les Ahmadis ou d'autres personnes. Quel est donc ce bien que l'on est en train de partager en suivant ces mollahs ignorants? Quel est ce bien que les autres clament qu'ils sont en train de distribuer? Donc l'on doit réfléchir à ce propos. Et on doit aussi se réformer. Sinon, lorsque le décret de Dieu final entrera en action, personne ne pourra le repousser. Les exemples des autres doivent nous servir de leçon pour notre propre réforme. Et il incombe aussi aux Ahmadis qu'ils doivent faire leur analyse de conscience afin qu'ils marchent tout le temps sur la voie droite et afin que nous puissions tout le temps suivre les commandements de Dieu et afin que tout le temps nous puissions analyser nos actions et que nous puissions tout le temps être reconnaissants envers Dieu pour ses grâces. Si nous agissons ainsi, Dieu, suite à ses promesses, sera notre maître et notre soutien. Et personne ne pourra causer du tort à la Jamaat. Allah déclare dans un autre verset: Fa'aqimu salata wa atu zakata wa'tasimu billah huwa mawlakum wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Par conséquent, observez la prière et payez la zakat et agrippez-vous à Allah. C'est lui votre maître, un excellent maître et un excellent aide. Il incombe à un vrai croyant que d'observer la salat et d'apporter en soi des changements purs en résultat de sa salat. Et de faire des sacrifices financiers pour la cause de Dieu et de purifier ses biens. Et de se cramponner au commandement de Dieu. C'est en suivant ses commandements que nous allons prouver que nous acceptons que Dieu est notre maître et que nous l'acceptons comme tel. Nous devons avoir cette certitude que c'est lui qui est notre maître dans un autre endroit, dans le Saint-Coran, Allah évoque ce sujet en disant Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun wa man yatawalla allaha ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Votre ami est seulement Allah et son messager et les croyants qui observent la prière et paient la zakat s'inclinant devant lui en toute sincérité. Et ceux qui prennent Allah et son messager et les croyants pour amis peuvent être assurés que c'est le parti d'Allah qui triomphera sûrement. Ici, on trouve mention du mot « raqeon ». « Raqeon » signifie « ceux qui adorent Allah, ceux qui se prosternent devant lui en toute sincérité ». Ce sont ceux qui ne suivent pas leur foi par aucune forme de shirk. Ensuite, il est dit qu'Allah est un tel ami, et c'est là la Jamaat des croyants. Voilà la Jamaat qui aura la suprématie. Allah est l'ami de ces personnes, et certainement il leur accordera la suprématie. Dans un hadith, il est dit que Hadrat Abu Huraira a rapporté que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré qu'Allah déclare « Celui qui est l'ennemi de mon ami, je lui fais une annonce de guerre. » La chose que j'aime le plus est que mon serviteur se rapproche de moi par les obligations que je lui ai imposées. Quelles sont ces obligations? Ces obligations ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Il y a les actes d'adoration, il y a les cinq prières quotidiennes. Dieu déclare que mon serviteur se rapproche de moi par des prières nawafil. En fin de compte, je l'aime et lorsque je l'aime, je deviens les oreilles par lesquelles il entend, je deviens les yeux par lesquels il voit, je deviens les mains par lesquelles il attrape, et je deviens les pieds par lesquels il marche. Et s'il me demande quelque chose, je lui accorderai cela certainement. S'il me demande ma protection, je lui accorde cette protection. L'action que j'hésite le plus à faire est de prendre la vie d'un croyant. Il n'aime pas la mort et je n'aime pas à le faire souffrir. C'est ainsi qu'Allah s'occupe de ses serviteurs. Si en toute sincérité l'on se prosterne devant Dieu, si l'on s'acquitte de ses devoirs envers lui, si l'on marche sur la voie de la taqwa, eh bien, sachez qu'Allah devient l'ami de telle personne, tout comme il a déclaré à la lumière de ce hadith. C'est-à-dire qu'Allah l'aide dans chacune des actions qu'il va accomplir. Qu'Allah fasse que nous puissions marcher sur la voie de la taqwa, que nous soyons attachés à notre imam, afin que nous puissions tout le temps voir les signes du soutien de Dieu.